Bonjour à tous. Je commence cet après-midi par une question. De quoi avez-vous soif? De quoi avez-vous soif? Quel est l'objet de votre soif? Nous avons tous des soifs physiques, bien sûr, des soifs intellectuelles et des soifs spirituelles que nous devons satisfaire. De quoi avez-vous soif dans votre vie? Merci, Alex. Si vous avez été au musée du Louvre à Paris, vous vous souvenez peut-être d'avoir vu le tableau « Le radeau de la Méduse ».« Le radeau de la Méduse » de Théodore Géricault. C'est un tableau qui représente la suite d'un naufrage qui a eu lieu près des côtes de l'Afrique de l'Ouest. En 1815, une frégate du nom de la Méduse est partie depuis la France pour aller au Sénégal. Mais l'incompétence et l'inexpérience du capitaine ont fini par faire échouer la Méduse sur un banc de sable. Les passagers privilégiés ont pu embarquer sur 6 grandes chaloupes et des 149 soldats et marins qui restaient ont été obligés de suivre sur un radeau avec peu de vivres. À cause de manque d'eau, la situation s'est dégradée rapidement et seulement 15 personnes étaient encore vivantes lorsqu'un bateau britannique les a retrouvées 13 jours plus tard. Le tableau est une image horrible qui représente les quelques petits restes lors des derniers jours à la dérive. C'est une image triste, surtout quand on considère ce que ça veut dire de passer 13 jours sans boire. En imaginant cette soif immense, je pense aux paroles des poètes anglais Samuel Taylor Coleridge qui a dit « de l'eau partout et pas une goutte à boire. De l'eau partout et pas une goutte à boire. » Malheureusement, nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Nous sommes tous dans le même bateau ou le même radeau. On a une soif insatiable. Une soif de sens de la vie, une soif d'amour et une soif de quelque chose d'éternel. Comme nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, pendant notre étude biblique il y a quelques semaines, Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Nous avons une soif infinie et nous ne savons pas comment la satisfaire. Aujourd'hui, nous allons examiner un texte qui parle d'une femme qui avait la même soif que nous, une soif infinie. C'est l'histoire d'une femme qui recherchait le sens de sa vie et qui avait besoin de quelque chose qui puisse la satisfaire pleinement et éternellement. Nous allons donc étudier Jean chapitre 4, versets 4 à 26. Jean 4, 4 à 26. Et dans ce texte, Jésus est en train d'aller à Galilée. Donc il passe, il traverse la Samarie. Donc verset 4. Il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près des champs que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ?» ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui qui tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où je ne serai ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis. » Moi qui te parle. Et on va arrêter là. Je vous invite à la prière. Au Seigneur, nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé de toute œuvre bonne. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière pour nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous de comprendre ce que tu as pour nous dans ce texte cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte, on découvre une femme qui a une vraie soif de quelque chose, mais elle n'est pas consciente de son besoin jusqu'au jour où elle rencontre un étranger en dehors de son village. Cet étranger s'appelle Jésus, et ce qu'il lui offre va changer sa vie. Ce qui devrait nous frapper dans ce texte, c'est le contraste entre ces deux personnages. Jésus est un juif. Elle est une samaritaine. D'habitude, les juifs ne parlent pas avec les samaritains. Les samaritains sont des hérétiques et des bâtards, moitié juifs, moitié païens. Ensuite, Jésus est un rabbin. Et elle est une femme. Normalement, les rabbins juifs n'enseignent pas les femmes. Et troisièmement, Jésus est le fils de Dieu. Et elle est une femme adultère, probablement méprisée par sa communauté, ce qui explique pourquoi elle est seule au puits à midi. Les autres femmes vont chercher leur eau à une heure moins chaude dans la journée. Mais Jésus prend du temps pour elle. Il reconnaît son besoin et il lui offre quelque chose qui satisfait. Je voudrais donc examiner dans ce texte les trois manières dont Jésus satisfait la soif de cette femme samaritaine. Premièrement, au verset 9 à 12, Jésus lui offre une connaissance qui satisfait. La femme n'a aucune idée de qui est Jésus. Elle sait qu'il est juif, mais elle n'a certainement pas conscience qu'il est le Fils de Dieu. Quand Jésus commence à parler avec elle, il lui demande quelque chose à boire. Dans le contexte de cette société et de cette époque, on se sera attendu à avoir une réponse de genre « Oui, monsieur, comme vous voulez ». Mais ça, ce n'est pas la réponse de cette femme. Elle lui dit plutôt, « Je suis samaritaine. Je suis la poussière sous tes pieds. Et maintenant, tu me traites comme une esclave qui n'existe que pour te servir. » Elle est consciente des problèmes qui existent entre les Samaritains et les Juifs. Et elle ne cache pas ses sentiments. Mais regardez la réponse de Jésus au verset 10. Si tu connaissais qui est celui avec qui tu es en train de parler, tu laisserais tomber ton sarcasme et tu poserais la bonne question. Le cœur du problème, ce n'est pas un verre d'eau. Le cœur du problème, c'est l'éternité. Et Jésus utilise la métaphore de l'eau vive pour expliquer quel est le véritable besoin de cette femme. La métaphore est riche, comme on le voit dans l'Ancien Testament, où les prophètes utilisent cette métaphore pour faire référence à la grâce de Dieu, à la connaissance de Dieu, à la purification et à la transformation qui viennent de la fidélité désaltérante de Dieu. C'est évident dans ce texte que la femme passe complètement à côté du sens de la métaphore et elle montre que sa connaissance est limitée concernant Jésus. Elle se trompe à propos de qui est Jésus et elle se trompe à propos de comment on trouve l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, dit-elle. Ce qui est intéressant dans ces quelques versets, c'est qu'elle sait que Jésus n'a pas le droit de parler avec elle d'après les coutumes de sa culture, mais elle ne sait pas qui est Jésus. Elle sait certaines choses concernant le puits, mais elle ne sait pas que l'eau vive vient de la connaissance de Jésus lui-même. Et si on regarde les versets 25 et 26, on voit qu'elle sait aussi certaines choses concernant le Messie, mais qu'elle ne reconnaît pas que Jésus est celui qui sauve éternellement. Jésus lui dit donc, en quelque sorte, « Si tu connaissais qui je suis, je te donnerais la véritable connaissance. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on doit reconnaître quel est le vrai besoin, qu'on doit poser la bonne question. Si on veut avoir la bonne connaissance, on doit poser la bonne question et attendre la bonne réponse. Jésus lui demande à boire, mais c'est elle qui a soif de quelque chose d'éternel. Imaginez qu'un mendiant dans la rue vous demande quelques centimes. Vous vous tournez vers lui et vous lui dites, « Pourquoi me demandes-tu de l'argent? Trouve-toi un boulot fainéant. » Et il vous répond, « Si tu connaissais qui est celui qui te dit « Donne-moi quelques centimes », c'est toi qui lui aurais demandé des centimes. » Et il t'aurait donné 15 milliards d'euros. Vous lui répondiez logiquement, mais tu n'as rien à donner et 15 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Alors imaginez que ce mendiant, c'est en réalité Bill Gates. Ça change tout. Ça change tout. Nous devons nous demander, est-ce que je reconnais Jésus et sa capacité à donner de l'eau vive? Est-ce que j'ai une connaissance de Dieu qui me satisfait? Si nous reconnaissons qui est Jésus, nous avons la responsabilité de vraiment accepter cette connaissance et de mettre notre foi en lui qui nous satisfait éternellement. Ensuite, la deuxième chose que Jésus offre à la femme est une vie qui satisfait. L'eau vive que Jésus lui offre et la vie éternelle. Il lui offre une vie qui satisfait et qui commence maintenant. Il lui dit que ceux qui croient puiseront de l'eau avec allégresse aux sources de salut, comme on peut le dire en Ésaïe chapitre 12. Il parle d'une satisfaction et d'une transformation qui viennent non pas des œuvres religieuses, mais d'un cœur qui s'appuie sur l'amour de Dieu. Notre soif physique n'est jamais satisfaite. Comme la Samaritaine la constata au verset 15, elle est obligée de revenir chaque jour au puits pour puiser. Et c'est à ce moment-là que Jésus fait un rapprochement entre la soif d'eau de la femme et la soif d'amour, sa soif d'amour. Grâce à sa connaissance divine, Jésus sait que cette femme a passé sa vie avec 6 hommes différents. Elle cherche l'approbation des autres. Elle cherche à trouver son bonheur dans des relations sexuelles et dans l'amour de ses partenaires et ses conjoints. Mais tout comme ces promenades quotidiennes au puits qui se répètent sans cesse, elle a aussi un profond désir d'amour. Le désir d'un amour qui puisse satisfaire sa vie. Ce que Jésus lui offre, c'est la vie dont elle a toujours eu besoin. Peut-être connaissez-vous le mythe grec de Sisyphe. Sisyphe, un roi qui a été condamné à faire rouler éternellement un rocher jusqu'en haut d'une colline. À chaque fois, le rocher retombait en bas devant parvenir au sommet. Et Sisyphe devait donc recommencer indéfiniment. Ce travail absurde a inspiré Albert Camus, qui a utilisé cette histoire pour démontrer l'absurdité de la vie dans notre monde sans Dieu, sans sens à la vie et sans vérité. Pour Camus, notre vie ressemble à celle de Sisyphe, et notre seul espoir est d'imaginer Sisyphe heureux. Il n'y a pas d'espoir dans la vie. Donc il faut se créer un faux espoir. Mais notre imagination a ses limites. Sisyphe n'était pas heureux. Ce que Jésus nous offre, ce n'est pas un faux espoir, mais un bonheur réel. Malgré les efforts futiles de la Samaritaine, qui cherchait un sens à sa vie et un amour qui puisse rester, elle ne fait qu'échouer. Mais ce que Jésus lui a proposé et ce qu'il nous propose, c'est une vie qui satisfait pour maintenant et pour l'éternité. Le but de ce texte est de nous montrer troisièmement qu'il y a un vrai culte qui satisfait. Un vrai culte qui satisfait. Après que Jésus ait montré à la femme qu'il savait quel était son péché, elle change tout à coup le sujet en éteint une discussion concernant le bon endroit où adorer Dieu. Pour les Juifs, le culte de Dieu doit se tenir au temple de Jérusalem, la ville qui est au centre de l'alliance, des rites religieux et du système judiciaire établi par Dieu. Mais pour les Samaritains, le bon endroit et le mont Gérizim en Samarie, où Abraham et Jacob ont construit des autels. Au lieu de parler de son péché, la femme préfère aborder un débat théologique sur la question de culte. Ce prophète Jésus est un juif qui, pour elle, a une théologie douteuse. Mais Jésus n'entre pas dans le débat, et il ne fait pas de démonstration pour prouver les mérites de Jérusalem par rapport au mont Gérizim. À la place, il rappelle quelle est l'importance de la relation d'alliance établie entre Dieu et les Juifs. Et il rappelle le fait que c'est aux Juifs que Dieu a donné sa révélation. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il continue en disant que même la position privilégiée des Juifs est d'une certaine manière révolue. Avec la venue de Jésus, ceux qui rendent un culte au Seigneur ne sont pas identifiés par leur dévouement vis-à-vis un lieu ou un autel en particulier, mais par leur relation avec Dieu à travers Jésus le Christ. Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité. Les mots esprit et vérité caractérisent Dieu. Dieu est esprit. Et il est la vérité et la source de toute vérité. Nous connaissons Dieu seulement par Jésus, la parole, qui a été faite chair. Par le don de l'Esprit rendu possible par Jésus, nous pouvons connaître Dieu. Notre louange se concentre sur Dieu. Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est de savoir ce que ça veut dire la vraie spiritualité. Trop souvent, nous pensons de l'adoration seulement comme quelque chose qu'on fait pour le Seigneur. Et nous oublions que c'est plus une reconnaissance de ce qu'il fait pour nous. Considérez les pharisiens, par exemple, et les docteurs de la loi à l'époque de Jésus. Ils étaient convaincus que leur effort était suffisant pour plaire à Dieu. Ils étaient tellement attachés à leur temple, à leur tradition et à leur loi, qu'ils ont oublié quel était l'objet de leur louange. Quand Jésus a vu l'hyperspiritualité des hommes le plus spirituel de tout Israël, il leur a dit « Hypocrite, hypocrite ». La vraie adoration qui satisfait notre besoin de Seigneur commence avec le cœur. Cela commence avec la repentance et avec la foi. Le Messie Jésus est là, le temps est maintenant. Il satisfait notre besoin d'adorer. Nous apprenons de ce texte qu'une soif infinie est satisfaite seulement par un Dieu infini. Nous avons soif d'amour, soif d'approbation, soif de connaissance, soif de pouvoir, soif de sagesse, soif d'un sens à la vie et soif de quelque chose d'éternel. Ces choses pointent vers une soif plus profonde, vers une soif de Dieu. Et comme avec la femme samaritaine, Jésus nous montre quelle est cette soif. Il satisfait cette soif. Sans Christ, nous sommes comme les naufragés dans le tableau de Jéricho, jusqu'à ce que nous prenions la main tendue de Jésus et que nous recevions le salut qui nous satisfait et qui nous soutient maintenant et pour éternité. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous confessons que nous avons une soif infinie. Nous avons une soif d'amour, une soif d'approbation, une soif de connaissance, de pouvoir, de sagesse et d'un sens de la vie, Seigneur. Mais Seigneur, c'est toi et toi seul qui nous satisfait. Change nos cœurs, Seigneur, pour que nous recevions l'eau vive et le bonheur qui vient de Jésus, notre Sauveur. Au nom de Jésus. Amen.